Hey, avant de démarrer ce nouvel épisode, il faut que je vous présente ma nouvelle application Sport Science Test. Saviez-vous que pour mesurer la puissance, les équations que nous utilisons obtiennent 2% d'écart de précision avec des plateformes de force ? Saviez-vous que l'algorithme de Sport Science Test permettait simplement en filmant le mouvement de savoir quels muscles étirer ou renforcer pour l'optimiser ? Que vous pouviez tester l'endurance de dizaines de joueurs à la fois sans jamais vous tromper ? Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que sait faire Sport Science Test pour seulement 99€ par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Darval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Et quel épisode ? Je reçois aujourd'hui Olivier Bollier, éminent expert évidemment, mais surtout un ami, qui a eu été mon professeur hein, à la fac de Lyon. Je l'ai eu en prof avant qu'on écrive deux bouquins ensemble. Mm-hmm. Hein, et puis qu'il accomplisse aussi les siens de son côté. Hein, le plus connu, c'est Approche moderne de la force.
Ouais, du développement de la force.
Du développement de la force. Merci Olive de venir.
Merci à toi pour l'invitation.
Alors c'est cool, on innove un petit peu aussi dans le format parce que évidemment Olivier ne rentrait pas, pour ceux qui ont pu voir le making of sur Instagram, Olivier ne rentrait pas dans le canapé où c'est moi qui étais trop bas par rapport à lui.
Peu importe. Bon,
peu importe, Olivier est très grand. Donc du coup on change un petit peu, on fait un peu d'IKEA pour commencer. et on va parler de hauteur, de profondeur, mm-hmm. de squat. Ah, j'adore parler des squats. Moi.
Ben oui.
Tu aurais aimé ça. Peut-être un peu de ta faute aussi.
Les squats, alors les squats complets, les flexions complètes du genou, parce qu'on parle des squats, mais on pourrait parler globalement de la flexion complète du genou, du coup.
La triple flexion même.
Triple flexion,
de hanche, mais... de cheville.
On s'est battu pendant longtemps pour faire partir la malédiction de la flexion complète du genou qui serait préjudiciable à la santé de celui-ci. Donc on va essayer de montrer en quoi c'est pas le cas. Voire même... je vais aller un petit peu plus loin et je pense, au vu de la recherche scientifique et notre expérience de terrain, voire même la flexion complète du genou, de mon point de vue, serait plutôt un indicateur de santé.
Bah oui. D'ailleurs, d'où ça vient cette connerie ? D'où vient cette légende urbaine du « on ne dépasse pas les 90 degrés ». À un ouais. moment donné, on citait Bosco, je ne sais pas si tu te rappelles quand
alors moi, gamin. La première étude que j'ai vue sur le sujet, c'est l'étude de Fry et collaborateurs en 2003. Où ils avaient, c'est drôle parce qu'ils avaient bloqué l'avancée du genou pour ne pas dépasser le fameux « on ne dépasse pas la pointe du pied ». Ils avaient bloqué l'avancée du genou avec une planche. Et en faisant ça, ils enregistraient les forces au niveau de plusieurs articulations. Ils disaient « ah ben regardez, quand on bloque l'avancée du genou, on a un stress moins grand sur le genou. Mais par contre, et ça inquiétait personne à l'époque, il y a un stress sur les vertèbres lombaires qui devenait... exponentielle, c'est très drôle, et je l'ai fait souvent voir à mes étudiants, il y a une photo dans l'étude où on voit l'haltérophile avec cette planche qui l'embête, et il est obligé, le pauvre, de complètement arrondir le dos. Donc c'est ce genre d'étude qui prise hors du contexte, rend...
Eh oui, mais n'empêche qu'en faisant ça, après, tu arrives à squatter face à un mur, par exemple, gain de place, tu vois, au prix du mètre carré à Paris, dans les grandes villes.
Ah ouais, ça se tient. Ouais. Ceci étant, pourquoi squatter profondément et n'est pas préjudiciable, et voire même est utile à la performance, est utile à la santé du genou. La première chose qu'il faut comprendre, c'est une augmentation des points de contact entre les différentes structures. Par exemple, le tendon quadricipital a plus de 90 degrés de flexion, c'est-à-dire plus dans le sens plus bas, à plus de 90 degrés de flexion, tu augmentes le nombre de points de contact entre le tendon quadricipital et l'espace entre les condyles. Qui dit augmentation du nombre de points de contact dit répartition plus homogène et moins de contraintes. Donc c'est déjà la première chose à comprendre. Donc cette augmentation de la surface de contact, elle se voit au niveau du tendon quadricipital. Elle se voit aussi au niveau du nombre de points de contact entre l'arrière de la rotule et le fémur. Là encore, à plus de 90 degrés de flexion, meilleure répartition des tensions. Alors après, sur les cartilages, on a la même chose. Quand on est profondément accroupi, il y a une déformation, une zone de déformation plus large des cartilages, qui fait que, pareil, la surface de contact est plus grande, donc la zone de contrainte est plus faible.
TQFD.
Ouais. Déjà, première chose. Alors après, on va essayer de balayer les autres arguments positifs. D'ailleurs, avec ces cartilages, il faut dire un petit mot, il y a des études très intéressantes sur les haltérophiles de haut niveau. On a pu voir que les haltérophiles de haut niveau avaient une adaptation au niveau de leur cartilage, un épaississement de ceux-ci lié à leur pratique. Il faut dire que l'haltérophilie, c'est on ne peut pas faire plus accroupi qu'eux en permanence. Les flexions sont, j'allais dire, plus que complètes. Donc en prenant cette population comme référence, on voit plein de choses intéressantes. La première, c'est que ces cartilages s'adaptent. C'est vrai qu'on s'est bloqué sur les adaptations musculaires à l'effort. C'est sûr que quand tu t'entraînes, ce qui est le plus spectaculaire en adaptation, c'est le muscle. Mais en fait, il faut bien comprendre
que... Ce qui est mesurable aussi de manière assez facile.
Ça se voit et ça se mesure.
Bien sûr.
Tandis qu'il y a plein d'autres choses qui s'adaptent. La plupart des structures humaines s'adaptent au stress. Au stress dans le sens physiologique, pas le stress qui est forcément délétère. Mais le stress permet l'adaptation des cartilages. Ça épaissit plus. Et toujours avec les haltérophiles de haut niveau... D'un point de vue épidémiologique, dans ces études-là, on s'est rendu compte que les blessures aux genoux étaient bien plus faibles que la majorité des autres sports. Or, si les flexions profondes sont si préjudiciables à la performance...
On devrait observer l'inverse.
Oui, on devrait observer l'inverse. Donc déjà, on a ces surfaces de contact qui sont augmentées, ces cartilages qui s'adaptent. Après, on peut dire un petit mot sur les ligaments croisés. On a aussi des études qui montrent que le point de rupture des ligaments se fait à un niveau qui est bien supérieur à ce qu'on peut imposer volontairement à une flexion complète. Donc là encore, on ne risque pas de se faire exploser le...
D'avoir tout qui saute d'un coup.
Non, on ne l'a jamais vu, sauf cas de figure, c'est toujours pareil. Après, il y a toujours le cas de figure exceptionnel d'un athlète olympique lors d'une performance exceptionnelle qui se pète, mais on ne peut pas prendre un cas comme ça et le généraliser. C'est un biais de raisonnement. Et récemment, il y a eu une étude bien intéressante sur les ligaments croisés chez les haltérophiles de haut niveau qui montre que même eux, que même les ligaments croisés s'adaptent au stress, augmentent de volume lors d'un entraînement haltérophile. Et j'ai envie de dire cerise sur le gâteau, ils ont montré dans l'étude que plus les haltérophiles commençaient l'entraînement de haut niveau à des âges pubertaires, meilleures étaient ces adaptations. Donc non seulement, en résumé, ça veut dire que non seulement la flexion profonde n'est pas préjudiciable à la performance, mais en plus, quand on commence jeune, ça serait encore plus profitable. Et là, pas besoin de faire des grandes études. Hein. On regarde ces enfants s'accroupir en permanence sur leurs appuis. Si c'était si préjudiciable que ça, je pense que naturellement, les enfants n'iraient pas dans les angulations qui sont délétères pour eux. Mmh. Voire même, et ça c'est mon hypothèse personnelle, ils vont dans ces angulations-là, plus ou moins intuitivement, pour renforcer les structures, quoi, pour qu'on puisse en fait supporter plus tard les charges. Et peut-être qu'ils s'accroupissent en permanence, parce qu'il faut que l'organisme il se renforce. Quoi. Mmh. C'est une hypothèse qui est personnelle. Ce qui est sûr, c'est qu'on observe les enfants, et alors sans parler des cultures asiatiques et africaines, où ils passent un temps en repos.
J'ai un entraîneur pro de volley africain un jour qui m'a dit ça, qui m'a dit le squat, ça soigne les genoux. Et clairement, intuitivement, il va dans, probablement lié à son expérience, il va dans le sens que tu dis, c'est-à-dire que non seulement ça n'est pas dangereux pour le genou, mais en plus, vraisemblablement, ça a un effet, c'est un indicateur de bonne santé de l'articulation.
C'est ça. Et tous les athlètes que tu as entraînés ou que j'ai entraînés, on commence à avoir de l'expérience, j'ai jamais perçu de problématiques liées à ces flexions profondes. Sauf, alors il faut dire, les trois exceptions à la règle, sauf si tu ne maintiens pas le genou dans l'axe du pied. C'est-à-dire qu'il faut proscrire à un moment donné le valgum. Le valgum, c'est quand le genou rentre à l'intérieur du pied. Ça, il faut le proscrire. Mais le squat complet n'est pas responsable du fait que les entraîneurs ne coachent pas ce valgum-là. Mmh. Donc, il faut garder le genou dans l'axe du pied. Sinon, effectivement, c'est un massacre. Alors, moi, en plus, je coach aussi le varum, c'est-à-dire quand le genou part à l'extérieur, je ne suis pas pour non plus, parce que pour répartir la charge correctement sur les condyles, il faut que le genou soit dans l'axe, pas dedans, et c'est plutôt 8 personnes sur 10 plutôt part en valgum, mais pas à l'extérieur non plus. Alors, parfois, on coach le varum en contre-réaction d'un futur valgum. On se dit, le genou va partir dedans, donc tu dis à ton athlète, et mets le genou sur l'extérieur. Mais ce n'est pas pour le laisser à l'extérieur, c'est pour pas qu'il parte à l'intérieur. Donc voilà, il faut garder le genou dans l'axe. En gros, c'est pas compliqué. Hein. Garder le genou dans l'axe. Jamais défixer la colonne lombaire. Ça, c'est pareil, le point le plus crucial. La lordose lombaire, elle est faite pour que la charge sur les disques intervertébraux soit optimale. On ne défixe pas, avec des charges lourdes, j'entends, on ne défixe pas son dos. Ça, évidemment, sinon, c'est un massacre aussi. Et dernière chose qui est moins connue, c'est les travaux de Bobert et collaborateurs en 88, c'est le déphasage proximo-distal. Lors de la triple extension en genou-cheville, il faut, si on veut rendre maximum le transfert sur la détente verticale, il faut qu'il y ait un déphasage proximo-distal. C'est quoi le déphasage proximo-distal ? C'est le fait que l'articulation de la hanche, lors de la phase concentrique, s'ouvre légèrement avant l'articulation du genou, qui elle-même s'ouvre légèrement avant l'articulation de la cheville. Cette triple extension en genou-cheville, comme son nom l'indique, doit se faire temporellement dans cette...
Elle n'est pas totalement synchronisée.
Non. Alors, à l'œil nu, ce n'est pas si évident que ça à voir. Hein. Mais par contre, il y a un indicateur de terrain qu'on peut proposer à nos collègues. C'est quand ton athlète squatte en remontant les fessiers d'abord, quand il transforme son squat en good morning squat, c'est-à-dire en faisant tac-tac en deux temps, c'est forcément le signe qu'il a activé l'articulation du genou avant celle de la hanche. Donc en clair, ce qu'il faut coacher, c'est quand tu es au point bas, quand tu remontes, il faut coacher le tronc qui se remonte en premier. Si c'est le cas visuellement, on a très forte chance que la hanche s'ouvre avant le genou, qui s'ouvrira avant le...
Et ça renvoie des problématiques purement de coaching technique. Et si le cas échéant, ce n'est pas possible de régler par le coaching technique ces problématiques-là, ça veut dire qu'on a clairement un déficit de force quelque part au niveau probablement des fessiers. Mais on en revient à du coaching et du bon sens. C'est-à-dire que le mouvement de squat en lui-même, bah, effectivement, s'il est bien pratiqué, comme tous les autres mouvements, comme un coup droit au tennis, comme un smash en volley ou une projection en judo, si on ne la fait pas de manière déraisonnable, c'est cadré par une technique... purement mécanique.
C'est ça.
Alors du coup, si on parle de mécanique, c'est intéressant parce que tu donnais ta sensibilité sur la trajectoire de genou. Aujourd'hui, il y a un débat autour du squat, même si heureusement pour nous, le squat complet commence à bien s'ancrer dans la perception collective comme quelque chose d'important. N'empêche que maintenant d'autres débats arrivent. Alors par exemple, on sait qu'un auteur comme Kelly Starrett est un fervent défenseur d'un torque externe, un couple de force très très fort. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément lu Supple Leopard ou qui ne suivent pas régulièrement ce qu'on raconte ici, l'idée c'est de visser les tibias dans les pieds, hein, pour faire simple, pour qu'on drive les genoux plus vers l'extérieur. Et Starrett, lui, il est tellement branché sur la mobilité, il a une telle mobilité de hanche, une telle ouverture, une telle rotation externe, qui est capable de faire justement un squat extrêmement profond, pied parallèle relativement serré, presque largeur de bassin, avec là pour le coup un écartement des genoux très très important vers l'extérieur. Et lui, il dit voilà, il faut y aller à fond. De l'autre côté, on ne peut pas vraiment négliger le fait que à la remontée, on ait à l'inverse un torque interne, qui peut se traduire chez certains athlètes de très haut niveau, et notamment en haltéro, par un passage en valgus. Voire même valgus, varus, valgus, varus, sur toute la remontée. Hein, ça se voit à très haut niveau. Et du coup, un débat. Dans quelle mesure est-ce qu'on coach à pousser les genoux vers l'extérieur ? Dans quelle mesure est-ce qu'on coach ce torque interne à la remontée ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on voit certains haltérophiles qui réalisent une succession de varum-valgum, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'avec cette pratique-là, il cherche à accumuler de l'énergie élastique dans le couple adducteur-abducteur de hanche. En fait, c'est une combine pour augmenter la force de poussée. Mais là encore, c'est comme si on se dit, tiens, en powerlifting, il courbe le dos comme ça, ben, je vais faire pareil en prépa physique. c'est un faux débat parce que eux, dans leur sport, ils recherchent tous les moyens mécaniques pour réaliser une performance.
C'est la logique interne de l'activité.
C'est ça. Nous, en préparation physique, on cherche le transfert et la sécurité simultanément. Donc, copier-coller le modèle d'une activité avec nos athlètes, c'est se tromper de débat. Donc moi, je ne suis pas pour ça, pour les raisons que j'ai énoncées. La répartition sur les ménisques, le stress condyle ménisque, il ne doit pas être interne, internalisé ou externalisé, sous prétexte que, ben, qu'on le voit en haltérophilie. Donc une bonne répartition
parfois.
Homogène. Parfois, oui, c'est pas systématique, mais c'est vrai que c'est spectaculaire.
Sans compter qu'on est sur des profils qui ont probablement stimulé toutes les adaptations dont tu parlais en introduction.
Et depuis longtemps.
Et qui donc n'ont pas forcément les mêmes genoux que nos judokas, nos nageurs. Nos...
C'est ça. Donc moi, je pense vraiment qu'on fait une erreur de coaching si on coach un varum excessif ou un valgum. Personne ne le coach, le valgum. Tout le monde fait la chasse. Mais vraiment, genoux dans...
J'ai encore eu la question il n'y a pas très longtemps sur Insta, là. Parce que comme les vidéos de CrossFit se mélangent à celles d'haltéro, à celles de force athlétique, on croise différentes approches techniques et du coup, les mecs disent « qu'est-ce que t'en penses ?» Donc ben voilà, ce qu'on en pense, c'est que chacun sa spécialité. C'est pas forcément souhaitable d'aller dans les extrêmes sur des non-spécialistes.
Non. Et l'autre contre-argument aux flexions profondes, c'était de dire « par exemple, moi j'entraîne un sauteur en hauteur ». Quand il prend son impulsion, il fait une toute petite flexion du genou. Pourquoi j'irai en flexion profonde ? Et effectivement, intuitivement, on a l'air de dire, il faut faire que des quarts de squat. Ce qu'ils font d'ailleurs fréquemment en athlétisme, ils font que des quarts de squat. Et là, la science nous donne des informations intéressantes. Quand on veut faire, par exemple, un contre-mouvement de jump à des hauteurs de plus en plus importantes, donc on recrute les extenseurs cheville, genou et hanche. Et ce qui est intéressant dans ces études, c'est que plus tu montes la hauteur, plus tu vas recruter les extenseurs de hanches, donc les fessiers, pour les grandes hauteurs d'impulsion. Et qu'est-ce qu'on sait aussi d'une manière tout à fait certaine, à la fois sur le terrain et dans les études, c'est que plus tu descends bas, plus tu vas recruter les extenseurs de hanches. Donc en fait, pour sauter haut alors qu'il y a une très petite flexion de genou, ce n'est pas systématiquement utile de faire que des quarts ou des demi-flexions, parce qu'on a besoin des extenseurs de hanches pour aller chercher des hauteurs de saut importantes. Donc l'argument qui dit qu'il y a une spécificité stricte, un copier-coller entre la flexion dans ton sport et la flexion que tu dois avoir en musculation, de mon point de vue, elle n'est que partiellement vraie grâce aux études électromyographiques qui montrent ça.
Ça pose la question du transfert. Il ne faut pas raisonner, selon moi, sur répliquer, mimiquer bêtement le mouvement. C'est pas parce qu'effectivement, ce qu'on observe, pareil en volleyball, les impulsions sont plutôt sur des quarts, voire des tiers de squat. C'est pas parce qu'on observe ça qu'il faut entraîner que ça. Et la preuve en est, c'est que la spécificité que l'on cherche, il va falloir aller la chercher dans un mouvement qui est moins spécifique, une flexion profonde, parce que justement, on va surrecruter dans cette situation-là les extenseurs de hanches qui sont si importants pour la détente. Mais du coup, ça ne veut pas dire qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, hein, on est d'accord là-dessus. L'écart de squat, on peut encore en faire.
On peut faire tout ce qu'on veut, si tant est qu'on ait une réflexion qui va avec. Il y a aussi les problèmes de compensation musculaire. Quelqu'un qui est capable de faire une flexion profonde ou une flexion complète, communément, c'est quoi ? C'est quand le fémur casse la parallèle. Déjà, quand on est sur ces indices de flexion, on peut déjà se réjouir. Hein, parce que pouvoir fléchir, casser la parallèle avec une charge sur le dos, c'est déjà beau. Donc à partir de là, quand tu es capable de faire une triple flexion, extension c'est facile, mais une triple flexion en cassant la parallèle, il y a une correcte répartition des tensions sur les trois articulations. Mais si tu manques, par exemple, de flexion dorsale de la cheville et que tu veux descendre quand même, qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu n'as pas de flexion dorsale de la cheville et que tu veux descendre, mécaniquement, tu vas être projeté en arrière. Tu vois, tu ne peux pas avancer le genou, tu es projeté en arrière. Mais si tu veux descendre, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas avancer le tronc, tu vois ? Donc tout le stress, excentrique qu'a pas pu subir ou la perte de mobilité que la cheville a subie, donc elle n'est plus capable de faire sa part du travail d'absorption de l'impact, il faut que fatalement, une autre articulation prenne le relais. Mais cette articulation-là, là, en l'occurrence le tronc qui avance, ces articulations-là, elles prennent à leur charge une charge de travail, si je puis dire, disproportionnée. Mmh. Elles prennent leur job plus le job de l'articulation de la cheville.
On déshabille Paul pour habiller Jacques.
Voilà. Donc, il y a aussi cet argument qui dit une flexion complète, c'est aussi le signe que chaque articulation prend à sa charge son travail de mobilité et ne donne pas à ses petites copines.
C'est ça. Ça va encore plus loin que ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que non seulement le squat, c'est bon pour la santé du genou, c'est pas mauvais pour la santé du genou, mais pire que ça, si on ne prend pas l'habitude de descendre suffisamment bas, on va surcharger les autres étages. Et du coup, ça devient dangereux pour les autres étages. C'est vrai qu'on a cette problématique-là qui est en plus amplifiée par le fait que pour vraiment obtenir des tensions satisfaisantes, rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli quand on fait un quart de squat ou un tiers de squat, il faut en mettre des rondelles sur la barre. Hein.
Et justement, mettre des rondelles sur la barre, ce qui devrait choquer les gens, c'est que pour faire un quart ou un demi-squat avec une tension suffisante, on doit mettre un paquet de rondelles sur la barre. Et toutes ces rondelles sur la barre, il faut que la colonne vertébrale les gère aussi. Quoi. Mmh. Donc en plus, la flexion complète nécessite une charge de travail bien plus faible.
Donc une charge mécanique inférieure pour un meilleur rendement.
Donc en résumé, je pense qu'on peut dire que décemment, il y a toutes les possibilités pour faire des demi et des quarts de flexion. Mais de mon point de vue, et je considère que 70 à 80% de l'entraînement devrait être avec ces flexions-là, avec des flexions complètes, on a quand même presque tous les avantages et très peu d'inconvénients. Et le seul inconvénient, c'est si ton coaching n'est pas efficient, là, tu peux faire du mal. Et c'est vrai qu'évidemment, un valgome en quart de squat, ça arrive moins fréquemment qu'un valgome en flexion plus profonde.
Et très clairement, plus on est sur des mouvements exposés à la blessure, plus on est sur des mouvements complexes, et plus on retombe sur une notion d'expertise dans le coaching. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a perdu beaucoup sur ces 10-15 dernières années, où on saute dans les mouvements, on encourage plus qu'on ne coach, et on perd de vue qu'il y a des aspects sécuritaires qui, eux, sont incontournables, et en tout cas, largement prioritaires en termes de préoccupation que à quel point je descends en squat. Hein. Si déjà, on avait des vrais repères systématique sur les trajectoires de genoux, hein, on reprend ce que tu as dit tout à l'heure, hein, sur le placement du dos, sur la verticalité du buste, sur les appuis au sol, on serait déjà bien content.
Yep.
Super, merci Olivier d'être venu parler de squat avec nous, c'est je pense hyper important de continuer à creuser ce thème-là, de communiquer ces infos-là. Largement étayé. Vous pouvez le suivre, Olivier Bollier. Il est très actif sur les réseaux. Coach Bollier, c'est ça, sur Twitter ?
Sur Twitter, oui. Puis sur Facebook et Instagram, je crois que c'est...
Olivier Bollier,
ouais.
Tout simplement. Vous le trouverez assez facilement. Continuez à nous suivre, à nous écouter, à nous partager, s'il vous plaît. Abonnez-vous et rappelez-vous que sur www.broussal-derval.com, vous avez tout un tas d'articles qui traitent notamment du squat. Il y a 4 ou 5 articles. Tout ça, c'est gratuit. N'hésitez pas. À très bientôt.
À bientôt.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.